بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال عز وجل وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال عز وجل إن ربك لبالمرصاد وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شفاعه الإسلام dans ces quelques versets. Nous voyons des attributs, des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala en rapport avec une qualité que le mu'min doit développer. C'est ce qu'on appelle le muraqabatullah. On va s'approcher un petit peu, inshallah, moi, la voix va rester. Le muraqabatullah, c'est le cinquième chapitre du Riyad al-Salihin. On avait complété avant les vacances scolaires le chapitre concernant al-sidq, le fait d'être véridique. On avait expliqué à maintes et maintes reprises quelle est la définition de al-sidq pour un mu'min. Et le dernier hadith sur lequel on avait complété ce chapitre, c'était un hadith en rapport avec le mu'amala, avec le commerce, dans lequel le prophète Ali salatu wa salam avait dit que lorsque une personne vend une marchandise à un acheteur, les deux personnes ont le choix de valider ou non la vente tant qu'ils sont dans la même assemblée. Et là, ce qui nous intéressait par rapport au fait d'être véridique, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wa salam précisait فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. Un simple rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Le prophète a dit que lorsque deux personnes ils font une négociation, si la personne qui vend la marchandise est véridique, si la personne vend la marchandise est véridique dans les qualités, dans les attributs de cette marchandise, alors Allah Azza wa Jal va mettre la baraka, la bénédiction dans cette vente. Et si la personne cache les défauts de la marchandise ou que la personne ment à propos de la marchandise, Allah Azza wa Jal enlève la baraka de cette négociation, de cette vente. On donnera un exemple, je vends une voiture d'occasion et la voiture comporte des vis. D'accord ? Par exemple, la boîte de vitesse, un exemple, ne marche pas, la clim ne marche pas, il y a tel problème. Je vais essayer de convaincre l'acheteur que c'est une excellente voiture, ça marche bien, ne t'inquiète pas, au bout de quelques temps, tu vas t'habituer. J'essaie de masquer les défauts. Et en masquant les défauts, j'arrive à vendre la voiture à 10 000 euros, par exemple. D'accord ? Alors que si j'avais dit la vérité que telle pièce ne marche pas, telle pièce faut changer telle chose, ben la valeur de la marchandise diminue. Et en finalité, la voiture ne vaut plus que 6 000 euros, donc 4 000 euros de moins. Alors, il faut qu'on comprenne bien qu'il y a des règles de mathématiques, d'arithmétique, mais ça, c'est des règles de ce dunya, des règles de logique, de mathématiques, que 10 000, ça vaut plus que 6 000. Ça, c'est les règles de base d'addition, de soustraction de valeur. Ce sont des règles qu'Allah Azza wa Jal a fixées pour régir, pour réguler les règles du dunya, du monde du visible, dans lequel nous vivons. D'accord ? Mais au-delà de ça, il y a les règles qu'Allah Azza wa Jal fixe, qui sont en rapport avec Al-Ghaib, avec l'invisible. Et ça, ça dépasse de loin la logique, l'entendement, l'esprit cohérent, les sciences, les mathématiques, etc., etc. Une personne peut se dire que si j'ai trompé mon client, je l'ai vendu la marchandise à 10 000 euros, c'est beaucoup mieux pour moi, c'est plus profitable sur le plan financier que de le vendre à 6 000. Et que j'ai juste la conscience tranquille que j'ai dit la vérité. Donc mathématiquement, 10 000 est supérieur à 6 000. Ça, c'est clair. Mais là où les règles d'Allah interviennent, c'est lorsque le prophète sallam parle de baraka, de bénédiction. Et la baraka, vous ne retrouverez ni sur Wikipédia, ni sur Google, ni dans aucun livre de science ou d'économie ou autre chose. Ou ni dans un discours encore moins d'un politicien. Parce que la baraka, qu'on traduit en français grossièrement par la bénédiction, la baraka c'est quelque chose qui vient de la part d'Allah, qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas, qui ne s'entend pas, qui ne connaît pas de variation par rapport au 440 ou au Dow Jones ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose de ghaib, c'est quelque chose en rapport avec l'invisible, des choses qu'aucun scientifique ni économiste ne peuvent comprendre ni expliquer. Et ainsi, d'un point de vue islamique, 6000 euros, c'est beaucoup plus profitable pour toi, musulman, si tu as été véridique, si Allah t'a accordé la baraka, que 10 000 euros, si Allah en a repris la baraka. Ça, c'est quelque chose en rapport avec la foi, avec Iman bil Ghaib. Et le Prophète nous rappelle que si on est correct avec Allah dans nos engagements al-sidr, on a été véridique envers Allah et ensuite on a été véridique envers les gens, Allah Ta'ala nous accorde le succès, la bénédiction, la réussite dans ce qu'on fait. Donc ça c'était un point important qu'on avait cité la dernière fois pour le dernier hadith sur le chapitre concernant le fait d'être véridique. Et ça, ça va à l'encontre de toutes les thèses des économistes. D'accord ? N'expliquez pas ça à quelqu'un qui parle en euros ou en dollars, qui parle de la crise. Il ne comprendra pas c'est quoi la baraka, la bénédiction. Ça, il faut avoir iman. Et parfois même nous, musulmans, on ne comprend pas c'est quoi la baraka. Moins notre foi, elle est solide, moins on a de conviction en Allah, moins on a yaqin en Allah, ben moins on va comprendre et moins on va en profiter. Et c'est là que ça blesse. Moins on croit à la baraka, moins on croit au pouvoir d'Allah, ben moins on va en bénéficier. Tandis que celui qui a une conviction inébranlable, iman, yaqin sur les promesses d'Allah, même si d'apparence la personne connaît des difficultés, connaît une vie difficile, Allah Azza wa Jal peut lui accorder une tranquillité, une baraka, qui fait que sa vie est plus agréable. Il y a plus de tama'nina, de tranquillité dans son cœur que dans le cœur d'un richissime milliardaire ou millionnaire qui possède argent, gloire, beauté et célébrité, mais dont le cœur est vide. Il n'y a pas la pensée d'Allah et donc il n'y a pas la bénédiction d'Allah. Et quand un cœur ne bénéficie pas de la baraka, de la rahmat d'Allah, c'est un cœur qui est vide. C'est un cœur qui, même si les membres, les mains, ils possèdent tout, mais quand le cœur est vide, le cœur est attristé. Il y avait je regardais un reportage autre fois sur les millionnaires, les grands millionnaires, plus richissimes, millionnaire de Suisse, de France, d'Amérique. Il y a un monsieur qui dit un Suisse, d'accord ? Il dit que j'ai gagné, il explique combien il gagne par mois, mais peu importe combien il gagne, d'accord ? Il dit que j'ai tout, maison, piscine, chalet, ranch, tout ce que vous imaginez, hélicoptère privé, tout et tout. Mais il dit qu'il me manque quelque chose dans mon cœur, c'est l'amour. Il dit que j'ai pas de femme, donc je suis triste et tout. Et puis il me dit que maintenant j'ai trouvé une femme. Mais quand on regarde son visage, il n'a toujours pas l'air heureux. Est-ce qu'il faut qu'il trouve deux femmes ou trois femmes ? Non, c'est pas ça. Quelqu'un peut avoir tout ce qu'il veut si dans son cœur il n'y a pas Allah. Si dans son cœur il n'y a pas l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la personne restera attristée toute sa vie. Parce que quelle que soit la quantité de biens matériels qu'on possède, Allah a créé la machine humaine de la sorte. Elle réagit, son rapport avec les biens de ce monde, dans ce dunya, n'est pas le même rapport avec les biens de l'au-delà, dans l'au-delà. Dans ce dunya, quelle que soit la chose que vous possédez, à un moment donné, on finit par s'en lasser. Demain, j'achète la plus belle des voitures, la plus belle des Mercedes. Je vais en profiter une semaine, deux semaines, un mois. Descendre la rue, le riz les hauts, le riz les bas, le riz partout, à droite, à gauche, fier comme un coq, à moins gagner, à moins la réussite de la vie. À un moment donné, on s'en lasse. Ça reste un moyen de transport. On a la plus belle villa avec piscine, avec chevaux, avec chameaux, avec tout ce que vous voulez. Au début, on est fier. Je rentre dans ma maison, je pique une tête, je fais ci, je profite, j'enjoy the life, comme on dit. D'accord ? Mais à un moment donné, on s'en lasse. Une personne aime voyager, il va aller à Maurice, il va aller aux Maldives, il va aller, je sais pas moi, les pays, Las Vegas, je sais pas où ça, en Russie, s'il peut avoir un passeport russe, c'est encore bien. Bref, il va faire tout ça, il va profiter, mais à un moment donné, on se lasse des palaces, on se lasse des biens de ce monde, on se lasse même des meilleures nourritures de ce monde. Il avait demandé aux élèves, le madrasa une fois, c'est quoi ton plat préféré? En fonction des cultures, il y en a qui disent que nous on aime ça, nous on aime telle chose. Les gens disent, nous on aime manger des crustacés, langoustes, les camarons, les trucs qui coûtent cher. Je dis, l'exemple classique qu'on dit à tout le monde, d'accord, vous aimez manger des langoustes, c'est le plat préféré du réunionnais en général, d'accord. Vous venez chez moi, lundi soir, je vous sers un carré langue. Vous êtes heureux, vous dites, c'est énorme, ça coûte cher, période de crise, et alhamdoulilah. Vous revenez manger demain midi, petit déjeuner. Vous recevez un langouste avec deux pains. Il dit bon, il dit ok, mais il est gentil. Mashallah, midi, je vous redonne langouste. Mardi soir, pareil. Mercredi, à un moment donné, on ne peut même plus regarder. Alors que c'est le mets le plus cher, remplacé par mangouste, par daba, par bichik, par ce que vous aimez manger. Bref, pour qu'on comprenne que quels que soient les biens de ce monde, que ce soit matériel, que ce soit argent, que ce soit immobilier, que ce soit transport, que ce soit nourriture, Allah Ta'ala fait en sorte que le cœur de l'être humain se lasse de tout. Pharaon, il avait tout, il voulait encore plus et il était attristé dans son cœur. Qarun, un des hommes les plus riches, il avait tout, mais il était attristé dans son cœur. C'est-à-dire que quand un cœur ne connaît pas la ilaha illallah, ce cœur reste vide et triste. Alors que les rapports entre l'être humain, le mu'min, et les biens de l'au-delà, c'est totalement différent. Les biens de l'au-delà, du Jannah, vous pourrez dire, oui, mais qui me dit que de le Jannah, ça ne va pas être pareil? Qu'Allah a dit que telle personne aura un château, aura un palais, aura telle chose. Mais si je m'en lasse, sachant que la vie est éternelle là-haut, ben, combien d'années ça va vivre dans le château là? 1000, 10 000, 10 millions, 1 milliard, à un moment donné, je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire? Non. Allah a créé en sorte les biens de l'au-delà que l'être humain n'est jamais, le cœur de l'être humain ne sera jamais rempli de satisfaction par rapport aux biens de l'au-delà, parce que les biens de l'au-delà, hein, ils augmentent jour après jour. Les bienfaits de l'au-delà, hein, il ne reste pas un seul stade. La baraka, la bénédiction d'Allah dans les biens du Jannah augmente, augmente sans arrêt. Et les plus beaux cadeaux qu'un mu'min reçoit de la part d'Allah, une fois sallam explique un hadith, ça c'est un hadith ajib ça, dit qu'il y a un bienfait qu'Allah accorde au jannati, à l'habitant du paradis, qui le fait oublier le Jannah. Ajib ça. Il y a un bienfait qu'Allah accorde aux habitants du paradis, qui le fait oublier les bienfaits du Jannah. On va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le Jannah? Oui, la vision d'Allah Azza wa Jal. La possibilité de contempler la beauté, la grandeur, la splendeur d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'au-delà. Mais dans ce dunya, quelle que soit la quantité de biens qu'on a, à un moment donné, on s'en lasse. Et plus on en a, plus on a hisab, plus on a de compte à rendre. وَأَمَّا dans الْحَاكُمُ التَّكَافُرْ حَتَّى زُرْتُمْ مَقَابِرْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَلَى فَنْ يَوْمَ إِذِنْ عَنِنْ النَّعِيمُ. Le jour des comptes, chaque personne devra répondre de ses bienfaits. Si on avait peu de bienfaits, il y aura peu de questions. Si on avait beaucoup de ni'ma, de na'im, il y aura beaucoup de questions. Parce que le hadith de le sang, le hadith pour ça me dit que les personnes riches de ce dunya, qui avaient iman, on parle de musulmans, hein, d'accord, ils vont entrer dans le paradis 500 années après les personnes qui étaient pauvres et qui avaient le iman. Parce que quand Allah accorde, plus Allah donne, plus Allah pose des questions, parce que chaque chose qu'Allah nous accorde, chaque bienfait, c'est un amana, c'est un dépôt. Allah attend du mu'min une réaction, une manière d'utiliser ce bienfait. Donc, pour revenir au sens du hadith qu'on avait vu, hein, à la fin du hadith, du chapitre sur Al-Sidr, quand quelqu'un est véridique envers Allah, est véridique envers les gens, il obtient le contentement, l'agrément d'Allah, qui est synonyme de bénédiction dans sa vie. Il trouvera la tranquillité dans son cœur. Vous savez, une personne qui gagne le SMIC, qui vit dans un HLM, qui n'a peut-être pas de voiture, il prend le bus, il vit une vie difficile. Avec iman, Allah peut mettre une telle tranquillité du cœur, une telle quiétude, que le millionnaire ne n'imagine pas c'est quoi. Ça, c'est les bienfaits de la ilaha illallah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Promesse d'Allah, que c'est par la pensée d'Allah, par le dhikrullah, quand notre cœur est en relation en permanence avec Allah, c'est là qu'on trouve le tama'nina. Et la tranquillité du cœur, ça n'a pas de prix. Tout le monde recherche la tranquillité du cœur. Le footballeur, en montant de grade, passant de club, en essayant de signer des contrats, même dans des pays qui ne connaissent pas le football, mais pour gagner plus d'argent, il recherche la richesse, l'honneur, la célébrité, pour avoir un cœur apaisé, tranquille, mais il ne le trouve pas. Le chanteur, l'acteur, etc., etc., tout le monde recherche. Et à un moment donné, une personne peut monter dans la société, devenir, comme on dit, une idole des jeunes de la société, et il voit que dans son cœur, il n'a pas la tranquillité. Ça peut lui pousser à faire des choses, parfois même à se suicider. On a des exemples de grands footballeurs, de grands acteurs, ils étaient riches, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, malgré ça, ils avaient réalisé qu'il manquait quelque chose. Mais ils n'avaient pas compris que c'était la ilaha illallah qui les manquait. Donc, ils ont essayé de combler ce manque dans leur cœur par les drogues, par la cocaïne, par ces drogues dures ou douces, en pensant que cela allait combler ce manque dans le cœur. C'est l'exemple d'un grand footballeur qui est considéré comme un des plus grands au monde dans les années 70-80, un Argentin, on ne citera pas son nom. Il avait tout ce qu'il voulait, mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à là, consommer de la drogue, de la cocaïne, alors qu'il avait femme, argent, célébrité. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous voulez, si dans votre cœur il n'y a pas iman, la personne vit malheureuse. Donc nous comprenons à travers ce hadith que être véridique envers Allah, être véridique envers les gens, on a l'agrément, le contentement d'Allah. Quand on a le contentement d'Allah, Allah met la baraka, la bénédiction, la réussite dans tout ce qu'on fait de ce dunya et certainement avec ça, Inch'Allah, la réussite dans le-delà. Le chapitre suivant, le cinquième chapitre de Riyad al-Salihin, c'est Al-Muraqaba. Et on a cité 4 ou 5 versets que le Mu'allif a cités en introduction avant de commencer les hadiths. Et tous ces versets du Coran vont dans le même sens. C'est quoi Al-Muraqaba? Al-Muraqaba, c'est avoir la pensée d'Allah dans le cœur. Ça, c'est la définition la plus simple. Les muhadithines expliquent qu'il y a deux. Le Muraqaba comporte 2 points. Un, an turaqib Allah azza wa jal, et deuxièmement, an Allah ta'ala raqibun alayk. Il y a 2 points. Premièrement, que le mu'min est la pensée permanente d'Allah dans son cœur. Et quand on dit la pensée, c'est pas dans le sens de dhikrullah. Parce que dhikr, ça se traduit en français également par la pensée. Mais ça, c'est les limites de la langue française. Le dhikr, c'est réciter les louanges d'Allah. Ça peut être avec la voix ou alors dans le cœur. Mais quand on dit avoir la pensée d'Allah, c'est avoir la certitude dans mon cœur qu'Allah Azza wa Jal à tout moment m'observe. C'est avoir la présence d'Allah en permanence dans mon cœur. Et ça, c'est une qualité essentielle du musulman. Et la deuxième chose qu'on doit avoir dans cette qualité de muraqabatullah, c'est être, premièrement, on répète, on résume, un, anturaqib Allah, dans chaque chose qu'on fait, on a la pensée d'Allah. Lorsque je vais faire une action, lorsque je vais dire quelque chose, même lorsque je pense à quelque chose, je dois être conscient qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de moi et qu'Allah voit ce que je fais, qu'Allah sait ce que je fais et qu'Allah entend ce que je vais dire, ce que je vais prononcer comme parole. C'est ce qu'on appelle al-muraqaba, muraqabatullah. Avoir la pensée permanente d'Allah dans notre cœur et être conscient qu'Allah Ta'ala est au-dessus de nous et qu'Allah Ta'ala nous entend, qu'Allah Ta'ala nous voit et qu'Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et dans le premier verset donc, wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Dans ce premier verset, Allah Azza wa Jal informe donc l'être humain qu'Allah Azza wa Jal yaraka hina taqum, que lorsqu'un mu'min, lorsqu'un musulman fait la prière, on pourrait dire la prière de la nuit, lorsqu'il est en chaque position, que ce soit la position debout ou wa taqallubaka fi sajidin ou la position de prosternation, Allah Ta'ala voit les bonnes actions que ce musulman est en train de faire. Même si vous avez fait une salat, un tahajjud, une prière de la nuit, il y a 18 ans, il y a 19 ans, il y a 20 ans, Allah Ta'ala il sait et Allah Ta'ala retient. Et comment est-ce que Allah Ta'ala il sait par son ilm, vous n'avez pas de doute. Et Allah Ta'ala fait en sorte que l'être humain a une preuve de ses actions. Preuve qu'il verra le jour des comptes. Comment Allah a organisé cette chose? Allah Ta'ala a créé des malaïkas. Des anges, kiraman katibina, ya'lamuna ma taf'alun, des anges qui sont postés à droite et à gauche de l'être humain, du mu'min, et qui donc écrivent les actions bonnes comme mauvaises. Et pourquoi est-ce qu'ils écrivent? C'est pour que la personne ait une preuve, le jour des comptes, de la vie qu'il a menée dans ce dunya. Dans les hadiths qui décrivent l'au-delà, il est expliqué que lorsque l'être humain est ressuscité, lorsque son corps reprend vie, reprend forme et l'âme retourne dans son corps le jour de la résurrection, une des premières étapes, c'est la remise des livrets de compte. Et pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala remet les livrets de compte? Parce qu'Allah Ta'ala veut que chaque personne lise par ses propres yeux son livret de compte. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah Ta'ala fait en sorte que le jour des comptes, chaque personne sera son propre juge. afin que personne n'ose dire que oui, il y a eu, na'oudoubillah, que les anges se sont trompés. Hein, que les anges, là, ils ne savent pas compter, ou ils ont oublié d'écrire, j'ai fait une bonne action, l'ange dormait, na'oudoubillah, ce genre de bêtises. Chaque personne va voir son livret de compte, et il va lire 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 5h du matin, 5h10, 5h20, mashallah, je ne sais quelle date, 20, 22, je ne sais pas quelle date on est, hein, on voit par exemple, dans le livret de compte, demain 22 janvier, écrit 5h du matin, hein, Mohamed s'est réveillé. 5h05 du matin, il a fait son boudou, hein, il s'est purifié. Avant ça, il a été aux toilettes, il a fait stinja. Il s'est purifié quand le prophète l'a demandé, ça aussi c'est un ibada. À 5h07, il a fait ses ablutions. À 5h10, il a réveillé sa femme pour faire la salat. Et il a réveillé ses enfants pour faire la salat tout le fajr. À 5h12, il s'est chaussé. Il a mis son pied droit. Ensuite son pied gauche, conformément à la sunna. Tout ça, c'est des détails, na'oudoubillah, excusez-moi, on voit ça comme des détails, comme une routine, mais tout ça, les malaïka, ils l'écrivent, et qu'il est sorti de sa maison, et chaque pas qu'il fait, ce sont là des ibadas, des pas qui le rapprochent d'Allah, qui augmentent son degré, qui font que ses péchés sont effacés. Jusqu'à ce qu'il arrive à la masjid. Il arrive à la masjid, il a fait les raka'atain. Il a fait les raka'atain, il est resté assis en attendant le imam arrive. Chaque seconde qu'il passe dans cette position, c'est une seconde de ibada. Et il a fait la salat avec le imam, etc., etc. Les anges écrivent l'intégralité des actions. Ça, c'est le bon côté. Maintenant, s'il y a des erreurs, on dit à 8h05, l'autre cas de figure. Mohamed, il a été réglo. Ishaq, il s'est réveillé à 7h. Donc déjà, les anges écrivent, l'autre salatul fajr, il n'avait même pas l'intention de se lever. Et il a fait ci. Et il est parti à la salle de bain, première chose, il a pris le rasoir, là, il a rasé la barbe. Ah, ilaha illallah. Il s'est éloigné de la sunna de Al-Habib, alayhi salatu wassalam. Il a mis son pantalon, aïe. Le pantalon descend en dessous de la cheville, ça c'est haram. Le prophète me dit tout ce qui est au-dessous de la cheville, fa huwa fin nar, et dans le feu. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, hein, il était mourant. Vous savez qu'Omar avait été assassiné. Dans les derniers moments de sa vie, il reçoit les mu'minis, les gens qui viennent lui faire le dernier salam. Il y a un jeune homme qui vient, qui lui fait salam. Omar ibn al-Khattab lui fait salam. Le jeune homme sort. En sortant, Omar voit de loin que son pagne, on pourrait dire son pantalon, est trop bas. Il dit, rappelez-moi ce jeune homme. Il rappelle le jeune homme, il lui fait le rappel que le prophète a interdit à un mu'mine, un musulman, un monsieur de porte, etc. Tout ça, les malaïka écrivent. Même si pour nous, c'est des routines, c'est des choses habituelles. Hein, Ishaq, il arrive au travail, aïe aïe aïe. Première chose qu'il a fait, c'est quoi ça? Il a fait la bise, ses collègues. Voilà, il va au lycée. Il a 20 filles dans son classe, il embrasse les 20 filles. D'accord? À la récréation, il a 40 copines, il embrasse les 40, c'est-à-dire 60 bises. 60 bisous par jour, multiplié par 6 jours par semaine, par 52 semaines. Tout ça, les malaïka écrivent. Donc, le muraqabatullah, c'est être conscient qu'Allah Azza wa Jal nous observe et avoir la pensée permanente d'Allah dans nos cœurs. Vous savez ça, mes chers frères? Ça, c'est une des bases de notre foi. Parce que faire des bonnes actions, tout le monde peut faire. Faire beaucoup de choses. Arriver le mois de Ramadan, on est là, on est présent, on fait un tikaf, on fait saum, on jeûne, on donne à manger aux gens, etc. On fait plein de choses. C'est bien. Mais beaucoup de gens, ils font ça, alhamdoulilah. Mais là, on vient vers les valeurs de base, les valeurs de iman, la pensée d'Allah, la prise de conscience qu'Allah est mon Rabb, mon Khaliq, mon Raziq, il m'observe, il attend de moi un résultat, il attend de moi une réaction. J'arrive dans une situation de ma vie où je peux choisir entre le bien et le mal. Je choisis le bien et je délaisse le mal alors que ce mal-là peut me procurer un plaisir. Je suis un jeune homme, j'ai 17 ans. Je suis en première, je vais au lycée, je suis beau, je suis jeune, je suis en forme, je pète la forme, d'accord? Il y a une jolie fille que j'admire, elle est très jolie et elle me trouve beau aussi. Et donc, premier contact, elle me propose qu'on sorte ensemble. Là, je fais face à un dilemme. Mon cœur me dit, sors avec cette fille. Parce que, un, elle est jolie, elle est peut-être même canon. Et deuxièmement, si je sors avec elle, mon grade augmente. Par rapport aux gens, elle dit, ah, il est assuré. Ah, il sacre en forme, lui. Il a tient gros lot. Il a gagné le tantin là et tout. Ben là, on marche comme, on est fier. Hein, c'est comme si qu'on a une proie. C'est comme si qu'on a une proie, on est content. Donc, il y a l'honneur, il y a l'amour, il y a plein de choses, d'accord? Mais de l'autre côté, je me rappelle que je suis un mu'min avant tout. Je suis un muslim, c'est-à-dire, j'ai fait istislam lillah. Je suis normalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle des versets qui parlent de l'adultère. Je me rappelle de ce que mes professeurs m'avaient expliqué sur le péché, ce péché grave qui est la mixité, la fréquentation des femmes étrangères sans qu'il y ait de raison invalable, etc., etc. Donc, je suis face à un dilemme. Soit je suis mes passions, mes shahawat, mes hawa, et donc je fais ce que je veux, et donc je suis le chemin de qui ? De Shaytan, qui embellit les péchés pour nous amener vers lui et vers le mécontentement d'Allah comme lui. Ou alors je suis mon iman, je suis ma foi, je suis les principes de mon dîn et je pense à Allah. Ça c'est muraqabatullah. Et ce muraqabatullah, si le mu'min il l'a intégré, il ne sera jamais égaré, jamais perdu. Qu'il soit dans un environnement où il y a la pratique de la religion ou qu'il soit dans un environnement où il n'y a pas de pratique de la religion. Il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir, les fundis, les moulissables, comme vous les appelez. Ils disent, voilà, on a un problème, notre garçon, hein, il a toujours été bien dans le droit chemin, il fait bien ses salats, il est devenu hafiz al-Qur'an et tout, mais là, il a eu son bac. Il est parti à Bordeaux, il est parti à Marseille, il est parti à Paris, il est parti dans tel endroit. Et voilà, il est arrivé là-bas, maintenant il commence à déconner. Hein, j'ai des amis qui ont été en France, à Paris, à Marseille, tout ça. Ils l'ont vu, ils sont avec des filles, ils vont en boîte, on l'a vu boire de l'alcool. On ne comprend pas. Jusqu'à là, de 18 ans, ici, il était réglo, il gardait une petite barbe, il était hafiz le Coran, il venait namaz, salat et tout. Et arrivé là-bas, c'est comme si qu'il a tout perdu. C'est quand on a lâché les lions. Le lion, jusqu'à maintenant, il était en cage, ronronné là. Moïsab est là, Fundi est là, Papa est là, Dada est là, Nana est là. Après, voilà, comme on dit, les musulmans, les gens, ils sont autour de moi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il pratiquait, gardait sa barbe, il avait appris le Coran par cœur, il venait à la salah, et il le faisait, c'était, excusez-moi, et Allah seul, c'est les niyats, hein, on ne généralise pas, c'était un rituel, c'était ma vie, c'est ma culture presque. Je fais ça parce que papa fait, parce que maman fait, parce que grand-père fait, parce que le fundi, Moulissa m'a appris, parce que tout le monde le fait autour de moi. Tous les musulmans le font, et je suis un musulman, donc je fais. Mais intérieurement, les qualités intérieur, batine de la foi n'était pas présent, muraqabatullah. Il n'avait pas la pensée d'Allah directement de son cœur. Ce qui fait que quand on ouvre les cages, quand il n'y a plus de fundi, il n'y a plus de moulissab, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de masjid qui est en face, c'est la foire. Et qu'il peut sortir avec une fille en buvant une bière, en faisant telle chose, que personne ne le voit, personne ne le surveille. Wallah musta'an, il oublie son hifz. Il oublie sa tarbiya, son éducation, il oublie ses valeurs. Pourquoi cela ? Parce que dans le cœur, il n'avait pas muraqabatullah. Il n'a pas appris à penser à Allah en toutes circonstances. Tandis que ce même jeune, et là il y a le cas de figure aussi, d'enfin de raconter ça à un ami, à un ancien hier, je dis qu'il y a beaucoup de jeunes que je connaissais à La Réunion, Allahu Akbar, ils n'étaient pas spécialement pratiquants, mais arrivés en métropole dans leurs études, de leur travail, hein, ils ont vu que là-bas, il n'y a pas de facilité pour faire la salah, pour éduquer leurs enfants dans la religion, etc. Que du coup, ils se sont raccrochés à la religion. Ils ont eu un sursaut de foi. Ils ont compris que ce iman-là, j'ai besoin de le protéger. Et que si je continue à vivre comme ça, je le perds. Et si je perds mon iman, mon existence n'a plus de but. Parce que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce front-là, il a été créé pour se prosterner. Ce cœur a été créé pour penser à Allah. Ses mains, ses jambes, tous les membres du corps ont été créés pour faire l'adoration d'Allah. Si je ne fais plus l'adoration d'Allah, tout ça ne sert plus à rien. Inhum illa kalan'ami balhum. Balhum, qizar, balhum, abal. Les gens qui obéissent à leur shahawat, à leur pulsion. Afara'aita man ittakhadha ilaha hu hawa. Celui qui prend ses shahawat, ses instincts, ses pulsions comme sa divinité. Comment ça, comme sa divinité? J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'écouter ça, j'écoute. J'ai envie d'écouter le dernier rap, le dernier machin, le dernier musique, le dernier clip qui vient de sortir. Je pense pas à Allah, moi. Je pense pas à mon dîn. Je pense à ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de manger ça, je mange. Cette fille est jolie, je vais la draguer. Il marche pas, il tient mon cou, il gagne, il gagne pas. Je suis mes instincts. Cette personne-là, il adore ses instincts. Il n'adore plus Allah. Alors que le mu'min, lorsqu'il fait passer toujours l'ordre d'Allah, il a toujours la pensée d'Allah dans son cœur, ce mu'min-là, il atteint des degrés énormes, énormes, énormes pour Allah. Pour ça, les ulama disent que se retenir de le haram a beaucoup plus de valeur que de se précipiter vers les ta'at, vers les ibadat. Je répète, se retenir de le haram, se retenir face au haram a beaucoup plus de valeur que l'accomplissement des bonnes actions en elles-mêmes. Parce que comme on a dit, encore une fois, les bonnes actions, on les fait. Quelqu'un va aller au Hajj, il va faire des bonnes choses. Quelqu'un, il vit le Ramadan, il va faire de bonnes choses. Mais dans la vie de tous les jours, résister au haram, c'est une preuve de iman. Quand cette jeune fille me convoite, je dis non, c'est que dans mon cœur, c'est pas que je suis sadomaso, c'est pas que je me veux du mal, c'est que dans mon cœur, je pense à mon Allah. Je pense à mon Seigneur, à mon Khaliq, et donc je me dis que je ne peux pas désobéir à Allah. Mes chers frères, ça c'est les bases du iman. Celui qui a su développer ça dans son cœur, il n'a pas besoin de grands discours. Il n'a pas besoin d'écouter plein de bonnes choses. Il a ça dans son cœur, il peut habiter à La Réunion, il peut habiter à Mecca, il peut habiter en Russie, il peut habiter à Paris, à New York, à Miami, où il y a le vice, où il y a tout, à Las Vegas. S'il a ça dans son cœur, muraqabatullah, iman, solide, pensée d'Allah, cette personne reste dans le droit chemin et il ne sera jamais égaré. Ça, c'est donc des choses de base qu'Allah Azza wa Jalla donnera, inshallah, la possibilité de développer verset après verset et les différents hadiths qui composent ce grand chapitre qui est Muraqabatullah. Et ça, mes chers frères, on a besoin de travailler. Très souvent, nous travaillons les ibadats qui sont extérieurs. C'est bien, la salah, la zakah, la sadaqa, la lecture Quran, dhikrullah, mais il y a ce qu'on appelle les a'malul quloub. Il y a a'malul quloub. Il y a a'malul jawarih. A'malul jawarih, c'est les membres. Les actions qu'on fait avec les membres. Les actions extérieures, on pourrait dire. A'malul quloub, ce sont les actions qu'on fait avec le cœur. Des choses que personne ne voit, c'est des qualités qu'on travaille dans le cœur. Si on n'a pas ces qualités, les a'malul jawarih, les actions extérieures peuvent être d'aucune utilité. Parce que autant je vais avancer dans les bonnes actions, je vais faire autant de péchés. Je fais trois pas en avant, en venant Salatul Fajj, en faisant les bonnes choses, et chaque, quand je vais au travail, je fais trois pas en arrière. Donc en finalité, je fais du sur place, je n'avance pas dans ma religion. Donc Inch'Allah, nous demandons à Allah Azza wa Jal, on a fait 30 minutes là, non ? 31 minutes. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder cette qualité de tawfiq, Inch'Allah, de continuer dans ces programmes de Riyad al-Salihin et de nous donner la possibilité de comprendre ces paroles qui sont extrêmement importantes, qui construisent la foi du mu'min. Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir un point en rapport avec le muraqabatullah également, quelque chose d'extrêmement important, les deux, pas les deux catégories de ibadah, mais on pourrait dire les deux réactions, les deux types, on va dire les deux types de ibadah, le ibadah tama' et le ibadah, c'est-à-dire l'adoration d'Allah avec espoir et l'adoration d'Allah avec crainte. Et ça, c'est deux choses que le musulman doit également développer pour avoir un iman complet. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam explique que le ihsan, le plus haut degré de la foi, c'est adorer Allah comme si que tu voyais Allah. Et si tu ne vois pas Allah, adorer Allah avec conviction qu'Allah Ta'ala te voit. Les ulama, ils expliquent, et ça on développera inshallah la prochaine fois, an ta'budallaha ka'annaka tara. Adore Allah comme si qu'il était devant toi, comme si tu le voyais. C'est-à-dire, on adore Allah avec raghba, avec envie de le faire plaisir, avec dévotion, avec motivation. Et fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, dans cette deuxième partie du hadith, ça c'est ibadah, rahba wa khawf. Adorer Allah avec crainte. C'est-à-dire, je fais l'adoration d'Allah avec conviction qu'Allah est en train de me regarder, de m'observer, d'analyser, le mot, la yaliqubi, d'analyser les choix que je fais et Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Donc ça, c'est les deux qualités également que le mu'min, le musulman doit développer dans sa relation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de comprendre le sens de muraqabatullah, la pensée d'Allah. Qu'on rappelle, c'est un de mon cœur, je pense à Allah dans chaque action que je fais. Parole, geste, pensée. Et deuxièmement, être conscient qu'Allah est au-dessus de moi. Allah, il sait directement ce que je fais. Et ensuite, Allah a créé des malaïkas qui écrivent mes actions. Allah a créé d'autres malaïkas également qui font le relais matin et soir pour apporter à Allah les nouvelles. Mohammed, Ishaq, Abdullah, chaque personne, ce qu'il a fait du matin jusqu'au soir et ce qu'il a fait du soir jusqu'au matin. Être conscient de tout ça, et on va voir que si on a ces convictions de nos cœurs, notre vie change, notre relation avec Allah n'est plus le même. Il y a des gens qui se disent que je suis malade. Quelle maladie ? Je suis malade par rapport à tel péché. Mon problème, c'est l'alcool. Je ne peux pas m'arrêter. Moulissa Foundi, je vais avec des amis, je bois, j'en peux. C'est impossible pour moi d'arrêter. Voilà, c'est le zamal. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai commencé avec mes amis à 13 ans, 14 ans, et puis je suis passé à d'autres stades. C'était Zamal, c'était Rivotril, c'était je ne sais pas telle chose. Maintenant, je touche à des choses plus dures. Je ne peux plus m'en sortir. Il y a un jeune, une fois, qui parlait avec un collègue qui dit que notre problème à nous, c'est l'homosexualité. Un jeune qui dit que on ne trouve aucun plaisir à regarder une femme ni à, on va dire, à être proche d'une femme. On trouve notre plaisir qu'avec les hommes. On dit on est malade, mais cette maladie-là, ce sont des maladies spirituelles. Il n'y a pas un médicament. Il n'y a pas un médicament anti-zamal, anti-zina, anti-riba, anti, etc. Non, il n'y a pas. Le tout, c'est de développer lesquelles. Parce que ces maladies-là sont dans le cœur. Donc, développons, mettons l'antibiotique, on va dire. Développons les qualités du cœur qui vont expulser ces choses mauvaises. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui est condamné. Là, wallah, là, wallah. Jamais Allah ne créerait un homme avec des gènes d'homosexualité. Ça, c'est entièrement faux. Qu'une personne dit je suis homosexuel parce que j'ai des gènes d'homosexualité dans mon cœur. Je suis comme ça, j'ai été créé comme ça, c'est ma nature. C'est pas ta nature, tu as changé ta nature. Même le pigeon, les oiseaux, il n'y accoupe pas comme nous. Et si tout le monde faisait comme toi, tu serais même pas né. S'il commence à me dire que oui, c'est une liberté, c'est mon choix, c'est mon orientation, c'est ma philosophie de la vie. Si vraiment tu souhaitais que tout le monde était comme toi, que voilà, c'est notre liberté, tu serais pas né. Si vous l'avez deux papas, vous n'étiez pas là. Si les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes, quand est-ce que les femmes donneraient naissance à des enfants? Comprenez que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la, j'allais dire, de la sunna d'Allah, de la création d'Allah, même avant même que quelqu'un arrive à la foi, la nature. C'est contraire à l'organisation de la nature, tant pour l'espèce humaine, animale, végétale, etc. Même les plantes et tout, il y a les gamètes, hein, mâles, femelles, qui se fécondent, qui fait que l'arbre devient fruitier ou non. Bref, d'accord? Donc, il n'y a personne qui est condamné. Allah n'est pas valim, na'oud billah, Allah n'est pas injuste envers les gens qui fait que l'homme naît avec telle maladie, avec tel péché dans son cœur. Là, wallah. C'est des choses qu'on développe par rapport à l'influence, par rapport à différentes difficultés qu'on rencontre ou alors un rafla, une insouciance qu'on a dans notre vie sur certaines choses qui fait qu'on est allé vers telle chose. D'accord? Maintenant, chaque personne a possibilité de retourner auprès d'Allah et une des bases, c'est travailler le cœur pour enlever les saletés qu'il y a dans le cœur qu'Allah nous accepte. Pour obtenir les qualités intérieures et les qualités extérieures. Man tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.